On peut se poser la question, quelle est la nouveauté apportée par Jésus ? Quelle est la nouveauté apportée par Jésus dans la réponse qu'il fait à la question des pharisiens ? Parce que la question qu'ils ont posée est une question classique. Quel est le plus grand commandement ? Est-ce qu'on peut résumer la loi et les prophètes ? Retenir l'amour de Dieu et l'amour du prochain était une réponse qui était déjà connue à l'époque de Jésus. On en a des traces dans une controverse entre les rabbins Shammai et Hillel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une phrase qui est déjà présente dans le livre du Lévitique au chapitre 19. Le souci du prochain était enseigné dans la loi de Moïse. Nous avons entendu la première lecture tirée du livre de l'Exode. Les prophètes, Jérémie ou Ézéchiel par exemple, avaient aussi manifesté que l'injustice sociale était un motif de rupture de l'Alliance. Et les rabbins de cette époque allaient même loin dans l'enseignement sur l'amour du prochain en s'appuyant sur une particularité de l'hébreu. C'est qu'en hébreu, le prochain, ça se dit « réa » et les consonnes, ce sont les mêmes qu'un autre mot qui est presque la même chose, « ra'a ». Mais « réa », ça signifie « prochain » et « ra'a », ça signifie « mauvais ». Vous savez que l'hébreu, c'est une langue où on n'écrit pas les voyelles, il n'y a que les consonnes. Donc quand on voit un mot, on doit toujours penser « tiens, mais si on le prononçait différemment ?» Et du coup, les rabbins commentaient « oui, tu dois aimer ton prochain même quand il est mauvais. Ça arrive qu'il soit mauvais. Et pourtant, son comportement n'efface pas l'appel à l'aimer. » Alors on va dire, bon, ben, du coup, effectivement, je comprends que les pharisiens ne répondent pas parce qu'on leur donne une réponse qu'ils font eux-mêmes. Mais pourtant, Jésus vient bien apporter une nouveauté. Où se situe la nouveauté que Jésus apporte ? C'est que Jésus vient affirmer que le commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit » est semblable au commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », que ce « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » est semblable au premier commandement. Parce que ça ne va pas de soi. Il faut que nous prenions la mesure de ça. Ça ne va pas de soi de comparer l'amour pour Dieu à l'amour pour le prochain. Parce que d'un côté, on a l'amour pour Dieu, le Créateur, et de l'autre côté, on a une créature. Le Créateur et la créature, ce n'est pas au même niveau, objectivement. Et du coup, on s'interroge, mais qu'est-ce qui peut légitimer cela ? Qu'est-ce qui peut légitimer de dire « ils sont semblables » ? Qu'est-ce qui peut légitimer de les mettre au même niveau ? Parce que c'est pas une profession d'athéisme en disant « je pense que Dieu n'existe pas, alors de fait, on est au niveau de l'homme et seulement au niveau de l'homme ». Non, il y a bien une affirmation, une foi profonde dans le Dieu de l'Alliance. Et voilà qu'on dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est semblable au premier. La justification, la légitimité, en fait, elle nous est donnée dans le passage qui suit notre évangile, immédiatement, où Jésus va, à son tour, poser une question aux pharisiens qui sont là, ce qui va attirer l'attention, en fait, sur sa personne, mais il n'ose pas aller jusque-là. Il va dire, mais le Messie, qui est-il ? Le Messie, il est fils de David, oui. Vous avez remarqué, il y a une chose étrange. David appelle le Messie, son fils, il l'appelle Seigneur. Il y a un truc qui est bizarre, parce que normalement on n'appelle pas son fils Seigneur. Comment se fait-il que le Messie, il est à la fois fils de David et en même temps on l'appelle Seigneur comme on appelle Dieu Seigneur ? Et ils ne savent pas répondre. Ils ne savent pas répondre parce que la clé, elle est dans la personne de Jésus lui-même. Il est à la fois, oui, fils de David, qui est fils de l'homme et fils de Dieu. Il est pleinement Dieu et il est pleinement homme. C'est en sa personne que la clé de la similitude de ses commandements nous est donnée. Parce que Jésus a pris notre nature, parce que le Verbe qui s'est fait chair a assumé notre humanité dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, et jusque, pas simplement dans sa gloire, dans la transfiguration, mais jusque dans sa déréliction sur la croix, alors Jésus vient affirmer la dignité de tout homme tout au long de sa vie, quand bien même il peut être profondément blessé, quand bien même il peut être profondément défiguré. parce que lui, le Fils du Père, Dieu vivant, a assumé notre humanité, la dignité de l'homme est ancrée sur la divinité de Dieu. Et du coup, les deux commandements s'unissent. Honorer le Seigneur, ça va du coup être honorer le Seigneur jusqu'au bout quand il assume son humanité. Et donc, je dois apprendre à reconnaître dans l'humanité de mon frère l'image du Christ présent, quand bien même mon frère est blessé, défiguré par les circonstances de la vie. Et oui, ça a une conséquence extrêmement importante. Regardez notre société marquée par la technique. Qu'est-ce que ça, je veux dire par là? Vous savez que le principe de la technique, c'est que les choses deviennent obsolètes. Il y a des moments où ça fonctionne plus, ça se casse. Et quand ça se casse, alors parfois on essaie de réparer, mais souvent dans notre société, on a pris l'habitude de jeter. Ah oui, c'est cassé, je jette. C'est cassé, ça n'a plus de valeur. Et on fait la même chose avec l'être humain. On fait facilement la même chose avec l'être humain. Ah, il est trop malade, il faut s'en débarrasser. Il est trop petit, il faut s'en débarrasser. Il est trop vieux, il faut s'en débarrasser. Il a l'usage de sa raison qui est blessé, son psychisme est malade. Il faut s'en débarrasser. Il est cassé. Il y a une tentation violente contre l'humanité de la juger simplement à sa productivité et de se dire « quand l'homme est blessé, quand l'homme est cassé, il n'a plus de valeur ». Et notre réponse, en quoi est-elle entrée? Non pas dans une capacité que nous aurions « je vais te guérir de tout mal, de toute vulnérabilité », mais dans le fait que tout homme conserve sa dignité de sa conception jusqu'à sa mort naturelle parce qu'il est l'image du Christ, il est porteur de l'image du Christ qui est ancrée sur la divinité de Dieu. Le Seigneur Jésus a pris notre humanité jusque dans sa fragilité. Et du coup, nous avons un témoignage à donner au monde, et nous savons que ce témoignage, nous sommes appelés à le donner parce qu'il est ancré sur la personne du Christ elle-même. Et donc, il y a une première chose, il y a une lumière que le Seigneur Jésus nous donne aujourd'hui, et qu'on peut se poser, c'est-à-dire que si nous nous endormons maintenant, je vais dire, réveillons-nous, donnez un petit coup de coude à votre voisin, là, pour vérifier, tournez la tête vers lui pour voir s'il est toujours debout. Oui, ça va, très bien. Tout homme conserve sa dignité, une dignité qui est ancrée sur Dieu. Tout homme, et je suis appelé à en témoigner face à ceux qui en doutent. Mais c'est bien, on a apporté une lumière. Mais vous voyez bien que le commandement, c'est pas simplement « tu sauras qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même » et de dire « c'est semblable au commandement d'aimer le Seigneur son Dieu ». C'est pas simplement « tu le sauras », mais « tu aimeras », donc tu le mettras en pratique. Et nous voyons que là, il y a un deuxième élément, parce que, de fait, il y a des fois, je ne savais pas, j'ignorais. Bon, j'ai pas fait, j'ignorais. Mais il y a des fois, je sais, et je me rends compte, mais je n'y arrive pas, je n'ai pas l'élan. Je n'ai pas l'élan. Vous savez, l'élan, on peut le relier à deux choses, justement, le cœur et l'âme. Le cœur dans la résolution que j'ai prise, et l'âme dans l'élan de mettre cette résolution en pratique. Tu aimeras le Seigneur, justement ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Qu'est-ce que ça veut dire de toute ton âme? De trouver, de recevoir cet élan. Et qui vit justement ces commandements pleinement? C'est le Christ. Donc c'est de lui que nous sommes appelés à recevoir cet élan. Et donc, je voudrais pointer justement aujourd'hui ceci. Comment pouvons-nous recevoir cet élan du Christ? Cet élan, le Christ nous le donne un peu mystérieusement au sein du peuple de Dieu. Je veux insister là-dessus, au sein du peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai l'illusion de dire, de mon côté, tout seul, je vais lui demander, je vais le recevoir. Cet élan, nous n'allons pas le connaître. Cet élan, nous allons rarement le connaître. Alors que le Seigneur veut nous le donner au sein du peuple de Dieu, au sein du peuple de Dieu. Alors, c'est difficile à expliquer, je ne peux que vous témoigner de certaines choses. Une chose, alors là peut-être sur mon histoire personnelle, comment dans mon discernement pour devenir prêtre, il y a eu tout un temps où j'avais peur de la solitude du prêtre, j'étais inquiet par rapport à ça. Mais je me rendais compte d'une chose, c'est que quand je faisais une retraite, cette peur disparaissait. Cet élan m'était donné à la suite d'une retraite où j'allais passer une retraite dans une abbaye. Je ne peux pas expliquer de « Ah, parce que j'ai entendu, j'ai compris telle chose ». C'est le fait d'avoir prié avec d'autres, d'avoir prié dans ces cas-là avec la communauté des moines. Et je trouvais cet élan. Je ne peux pas dire « Voilà, s'il s'est passé ceci, cela », je ne peux que constater ce qui se passait. Avoir vécu cela me donnait un élan. Et j'allais dire, si cette image ne vous parle pas, prenons une autre image toute simple. Vous avez peut-être déjà vu des oiseaux migrateurs. Vous avez, on voit ces nuées d'oiseaux qui partent. Et vous savez que dans ces oiseaux qui font parfois des kilomètres et des kilomètres, parfois d'un continent à l'autre, celui qui travaille et qui fatigue beaucoup, c'est celui qui est devant. Mais les autres qui sont derrière, en fait, ils se fatiguent beaucoup moins au sein, justement, du peuple, au sein de la nuée. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé quand vous marchiez en groupe, quand vous devez guider le groupe, c'est beaucoup plus fatigant que quand vous êtes, excusez-moi, en mode mouton et vous suivez paisiblement. Et vous parlez avec d'autres, vous chantez peut-être avec d'autres, mais il y a une grâce particulière qui nous est donnée au sein du groupe. Alors, il y a un élément naturel qu'on peut observer, mais il existe aussi au niveau de la vie spirituelle. Et donc, nous devons repérer ces lieux où il nous est donné de vivre cette unité justement au sein du peuple de Dieu. Et il y a un lieu tout particulier qui nous est donné, j'allais dire, au sein de l'Eucharistie tous les dimanches. Et je voudrais insister là-dessus, parce que au sein de l'Eucharistie, vous savez que le début de la liturgie, c'est le chant d'entrée. Le chant d'entrée, il est là pour faire l'unité des cœurs. Il n'est pas là pour accompagner le prêtre qui avance tranquillement. Ce n'est pas une acclamation pour le prêtre qui passerait au milieu de la foule en saluant les gens. Non, c'est nous formons un seul cœur. Par le chant, nous allons donner une consistance au peuple de Dieu. Et puis, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Et vous vous souvenez, dans le « Je confesse à Dieu », on a prié les uns pour les autres, c'est pour ça. Je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. On prie les uns pour les autres, justement, pour que soient ôtés de notre cœur un peu les digues qui empêchent le flot de la grâce de Dieu de venir se répandre en nous. Parce que la grâce se donne, mais si nous avons toujours nos digues, eh bien, cette grâce ne peut pas humecter, ne peut pas toucher, ne peut pas humidifier le terreau de notre cœur. Et du coup, il y a une chose qui parfois m'inquiète, c'est que quand la messe commence, il y a un tiers de l'assemblée. Alors, au niveau des lectures, au niveau de l'évangile, l'assemblée est généralement à peu près là, mais pas avant. Alors, mon but, c'est pas de vous y enguirlander en disant « c'est pas bien » et de vous crier dessus. Non, mais c'est de vous dire réellement que il y a un lieu de grâce que nous laissons filer. Et nos vies, notre monde est suffisamment éprouvé pour que nous ne laissions pas passer ces moments de grâce, ces moments de force pour retrouver cet élan du Christ, pour recevoir cet élan du Christ. Recevoir la grâce de Dieu, la conserver, la recevoir et la conserver, nécessite justement que nous fassions tomber les digues de notre cœur, que nous recevions l'élan de Dieu. Et donc soyons attentifs de ne pas passer outre ces moments où cela se produit. Le chant d'entrée est vraiment le début de la liturgie qui constitue le peuple de Dieu. La liturgie pénitentielle est vraiment le moment où nous faisons tomber les digues qui vont nous permettre d'accueillir et de conserver la grâce de Dieu. Sinon, elle glisse sur nous et repart, non pas parce que Dieu ne veut pas la donner, mais parce que nous ne nous sommes pas préparés à la recevoir. Alors, frères et sœurs, en ce jour où le Christ nous a révélé cette similitude entre le commandement de l'amour du prochain et celui de l'amour de Dieu, parce que lui, le Verbe fait chair, Dieu, a assumé notre humanité et lui a conféré cette dignité en créant Dieu. Prenons au sérieux cet élan que le Christ veut nous donner et les moments qu'il met à notre disposition pour le recevoir. Que nous ayons à cœur d'être présents dès le début de la liturgie, puisque c'est un moment de salut.
Que cet effort nous aide à recevoir cet élan de Dieu pour en rayonner. Notre monde en a besoin. Notre cœur en a besoin. Et nous aurons cette joie d'être témoins du Christ, témoins de son salut, que les forces de la mort, que les forces des ténèbres n'arrivent pas à étouffer. Notre monde a besoin de cette lumière. Seigneur, à ton peuple qui se rassemble, fais la grâce de l'élan de ton amour. Amen.